France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
L'Europe est-elle seule au monde? C'est la question que nous posons ce soir, toute la soirée, alors que la guerre en Ukraine redéfinit les rapports de force mondiaux. Effectivement, le vieux continent semble de plus en plus marginalisé. Mis à l'écart des grandes décisions dépendant des États-Unis pour sa sécurité, divisé sur la question de son autonomie militaire, il peine à s'affirmer face aux nouveaux défis géopolitiques. Entre incertitudes sur l'OTAN, montée en puissance de l'axe sino-russe et ambition affichée mais encore fragile d'une Europe de la défense, l'Europe est un choix stratégique et décisif. Pour en parler, Louis Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la chaîne Grands Enjeux Stratégiques Contemporains à l'Université Paris 1 et vous êtes ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale de 2014 à 2018. Bienvenue dans Questions du Soir et bienvenue également à Julien Bisson qui m'accompagne comme chaque mercredi. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes rédacteur en chef des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du Soir. Et j'ai face à moi, Julien, comme chaque mercredi, l'hebdomadaire Le 1. Le titre est le suivant. L'Europe peut-elle résister? Pourquoi ce choix de la part de la rédaction?
Eh bien, on a voulu se demander, sous cette couverture en clin d'œil à Astérix, avec son village d'irréductibles européens menacés par les États-Unis, la Chine et la Russie, on a voulu se demander donc si l'Europe pouvait résister aux menaces, si elle, face à ces menaces, elle était seule ensemble, ou est-ce qu'elle était elle-même divisée, qu'elle pouvait trouver des alliés au-delà des États-Unis? Est-ce qu'en termes de défense, il suffit d'additionner les armées européennes pour faire face à la menace russe? Réponse avec un long entretien avec Raphaël Glucksmann, mais aussi avec Rim Montaz, qu'on a entendu juste avant, Camille Grand ou encore Georgina Wright.
Eh bien, parole est donnée au président de la République, Emmanuel Macron. C'était lors de son allocution télévisée le 5 mars dernier.
Les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui. Quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. À ce titre, nous restons attachés à l'OTAN et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou.
Louis Gauthier, lorsqu'on entend ce discours du président de la République, une question vient désormais à l'esprit. L'Europe est-elle désormais seule au monde? Et dans le fond, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
On est toujours seul au monde. Je dirais, dans la politique de défense du général de Gaulle, la notion de l'autonomie, de l'indépendance, de la souveraineté refusait une vision du monde de la guerre froide qui était dominée par Moscou et Washington. Par la suite, après la guerre froide, le président Mitterrand, en faisant adopter le traité de Maastricht, incitait déjà ses partenaires européens à s'assumer davantage historiquement, en considérant qu'il n'était plus l'objet de l'histoire, comme il l'était du temps de la guerre froide, mais il pouvait devenir, en s'affirmant sur leur destin. Le problème, c'est que l'Union européenne s'est plutôt construite dans une logique de négociation, dans une logique pacifique, et sous-traitait sa défense, en tout cas sa sécurité collective, à l'OTAN. C'est ça qui est mis en cause. Mais on est dans un moment, c'est vrai, historique, qui implique de reconsidérer le système d'alliance, après une période de décantation, de clarifier notre relation de manière définitive avec les États-Unis, de la clarifier aussi sur notre modèle européen, parce que on voit bien qu'il y a des positions qui sont divergentes. Mais on voit aussi, et la réunion qui avait lieu des chefs d'état-major, où il n'y avait d'ailleurs pas que des chefs d'état-major européens, a montré qu'on n'était pas seul. Aujourd'hui, qui est seul? C'est plutôt le président Trump qui a décidé de faire une sorte de course un peu éperdue pour aller à un cessez-le-feu négocié par-dessus la tête des Ukrainiens et des Européens. Donc c'est vrai qu'on a un moment particulier. Les Européens ont longtemps reporté ce rendez-vous. Au fond, ils appliquaient la maxime de La Rochefoucauld. Si vous voulez des alliés, laissez vos amis vous surpasser. Et c'était bien ça que finalement on laissait faire aux États-Unis, qui à la fois assurait une forme de protectorat, mais donnait à la défense collective des Européens toute une série de moyens de la supériorité stratégique et toute une série de moyens de la cohérence opérationnelle. Et sans eux, effectivement, militairement, s'ils se retirent, c'est ces strates qu'il va falloir réactiver, récupérer, dimensionner.
Je transmets la parole à quelqu'un qui a apprivoisé la solitude, Julien Bisson.
Lou Gauthier, vous évoquez cette recomposition stratégique mondiale avec le départ américain d'un côté, l'axe Chine-Russie-Iran qui prend de l'ampleur. Dans cette recomposition, est-ce que l'Europe peut prétendre à être une puissance globale, à égalité avec les autres puissances, si jamais elle l'a déjà été, ou est-ce qu'elle n'a vocation qu'à devenir qu'un acteur régional ?
Ouais, c'est vraiment la décision de la bascule. Parce que tous les éléments quantitatifs, que ce soit le PIB européen, que ce soit le nombre d'habitants, que ce soit les capacités technologiques de recherche, font qu'incontestablement les Européens font partie, avec la Chine et les États-Unis, des premiers pôles, trois premiers pôles mondiaux. Donc il n'y a pas de difficulté, à condition de s'intégrer davantage, à agir comme un acteur stratégique défendant ses intérêts, pas simplement ses intérêts de sécurité, mais ses intérêts économiques, ses intérêts commerciaux, ses intérêts financiers, ses intérêts monétaires. Donc ça, c'est une vraie question. Et c'est ce qui va interroger le modèle européen. Car on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays. Les clivages qu'on constate aujourd'hui ne sont pas simplement des clivages géopolitiques au sein du camp occidental, vis-à-vis de Moscou, mais sont aussi des clivages idéologiques qui divisent la classe européenne. Ce que je constate, c'est que quand même les pays qui sont les piliers de l'Union européenne, les pays fondateurs, plus le Royaume-Uni, sont plutôt dans une logique de convergence, de renforcement, de pacte, notamment sur les questions de sécurité, parce que l'avenir de notre continent passe par la capacité à stabiliser la paix, à empêcher la Russie d'agir comme un perturbateur majeur sur ce continent, dans son environnement proche avec des actions militaires, et dans son environnement plus lointain par des actions de déstabilisation, d'ingérence, de provocation.
Je voudrais qu'on prenne un exemple très concret, Louis Gauthier. On le sait, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est rendu en Arabie Saoudite pour une rencontre avec les Américains afin de dessiner un accord de paix, ce qui signifie que l'échec de la trêve proposée par la France et l'exclusion des Européens des discussions russo-américaines est flagrant. On est à la fois absent des discussions, nos propositions ont été écartées. Est-ce que là encore, on est dans l'illustration d'une solitude, mais absolument subie, et d'une marginalisation manifeste du vieux continent?
Mais écoutez, on n'en est qu'au début de l'histoire. La proposition de trêve de 30 jours, c'est une proposition de trêve, qu'elle soit proposée par les Européens, qu'elle soit aujourd'hui proposée par M. Trump ou les négociateurs américains qui se sont entendus avec les Ukrainiens. Ce qui va importer, c'est la réponse de Moscou et la capacité de trouver cette réponse acceptable, gérable.
Pardonnez-moi, je me permets de vous couper à distance. Ça révèle tout de même un poids symbolique, un poids diplomatique que l'on porte dans ces affaires internationales.
Oui, mais on a très bien compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'administration Trump a décidé d'engager un cessez-le-feu au départ par-dessus la tête des Ukrainiens et par-dessus la tête des Européens. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il va y avoir la nécessaire rencontre, notamment pour voir d'abord si le compte y est d'un point de vue de la sécurité de l'Ukraine, et deuxièmement si le compte y est d'un point de vue des garanties à apporter à ce pays et des risques pour la déstabilisation du continent européen. Et les Européens ne pourront s'engager dans cette voie que s'ils participent à la finalisation de ces accords. Et on ne peut pas donner des garanties à un accord qu'on ne contrôlera pas, et y compris par rapport aux Russes, puisque s'il y a un cessez-le-feu, il faut aussi qu'on contrôle le respect de ces cessez-le-feu par la partie adverse. Et donc pour ça, il faut des procédures de déconfliction, il faut éviter des incompréhensions, et il faut qu'on rentre dans un processus de normalisation, pas simplement en Ukraine, mais aussi avec la Russie. Les Européens ne vont pas lever les sanctions si les Américains les lèvent, sans les avoir conditionnés par, je disais, une normalisation du comportement de la Russie vis-à-vis de l'Europe.
Question de Julien Bisson.
Oui, en vous écoutant, on se demande comment les Européens peuvent justement peser dans le règlement de ce conflit ukrainien. On a évoqué notamment l'éventuel déploiement de forces européennes en Ukraine pour garantir sa sécurité. Est-ce que c'est un des moyens dont ils peuvent peser dans ce règlement ?
Oui, c'est certainement un test, parce que les Européens, s'il y a un accord de cessez-le-feu, ce qui implique une ligne, une zone de démarcation, une zone de démilitarisation, peuvent contribuer à aider à ce que ce cessez-le-feu soit respecté. D'abord en appuyant les Ukrainiens et en accordant eux-mêmes des capacités de contrôle aérien pour faire respecter une no-fly zone. La trêve commencera forcément par l'arrêt des bombardements et la vérification qu'il n'y a pas d'action offensive, agressive venant du ciel. De la même manière, il y a la nécessité de contrôler l'espace maritime. On ne peut pas imaginer que l'Ukraine, à l'issue de ce cessez-le-feu, n'ait pas un accès libre à son débouché naturel sur la mer Noire. Et enfin, pour éviter, si l'intention russe était de ne pas respecter cet accord, qu'ils repartent dans une opération terrestre, en première ligne, la de défense, les forces ukrainiennes, mais la possibilité que des forces de réaction rapide stationnées sur le territoire ukrainien ou à la périphérie derrière la frontière de l'OTAN puissent intervenir pour porter secours ou pour appuyer logistiquement ou pour donner des renforts aux forces ukrainiennes. Donc vous voyez, tous les processus qui conduisent, de négociations qui conduisent à cesser le feu, commencent par une désescalade et des mesures de vérification internationale. Et les Européens peuvent contribuer à ces mesures de vérification, ils ne sont pas les seuls, hein, d'autres peuvent y venir. Sauf que c'est sur leur continent. La suite se déroulera chez eux. Et les conséquences d'une paix mal réglée en Ukraine se répandront dans le reste du continent. Et donc, il y a une vigilance absolue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez ce niveau d'inquiétude, ce niveau de préoccupation chez les dirigeants européens, mais aussi, je le constate, cette volonté de coopérer et cette volonté de faire bloc.
Je souhaiterais, Louis Gauthier, vous faire entendre l'extrait d'un discours qui a connu un fort retentissement. C'était le 4 mars dernier. Il est prononcé par Claude Malhuret, le président du groupe Les Indépendants au Sénat.
L'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe. L'Ukraine risque d'être abandonnée. La Russie renforcée. Washington est devenue la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent.
Je vous pose, Louis Gauthier, la question que j'ai posée également à mes deux invités précédentes. Est-ce que les États-Unis sont encore, selon vous, un allié ou est-ce qu'ils ont basculé? Ils sont désormais un adversaire et nous devons les considérer nous-mêmes comme tels.
Écoutez, les propos de M. Malhuret, je dirais, ont frappé, ont marqué. Mais l'important, c'est moins de décrire les autres que d'être capable de se connaître soi-même, d'avoir la volonté d'exister dans un monde qui, évidemment, là, il a raison, et vous le soulignez tous, qui est en train de changer à une très grande vitesse. La question, c'est pas sommes-nous seuls, mais quand allons-nous être prêts à affronter davantage, et peut-être sans protecteur, l'avenir stratégique et l'avenir de la stabilité et de la paix sur notre continent. J'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une période de décantation. Aujourd'hui, il y a une hyperactivité de l'administration Trump, il y a des allers-retours, on parle de logique transactionnelle. On verra plus clair dans 6 mois, au moment du sommet de l'OTAN, où en sont eux-mêmes les États-Unis et quelle victoire, quel laurier ils ont récolté, à part justement la victoire et les lauriers que pour l'instant, ils semblent prêts à offrir presque sans condition à M. Poutine, qui ne fait d'ailleurs qu'attendre. Je remarque que la proposition de trêve, il l'a reçue avec prudence. Et donc, il va y avoir cette décantation et cette clarification. Ce qui est certain, c'est que l'Alliance Atlantique, qui a été un modèle quasiment unique dans l'histoire depuis, j'allais dire, presque les ligues athéniennes et spartiates dans la durée, n'est plus ce qu'elle était, c'est-à-dire un carré d'as entre les Européens et les Américains, carré d'as, as de pique. Il y avait un ennemi commun, qui a été le bloc communiste, l'Union soviétique, qui ensuite s'est recomposé après la guerre froide, dans la lutte notamment en particulier contre le terrorisme, dans une certaine volonté d'agir ensemble au service du maintien de la paix. Donc c'est plus un as de pique, c'est plus un as de carreau, dans la mesure où la question aujourd'hui qui est posée, c'est celle du partage des moyens, c'est de la substitution de moyens européens à des moyens américains. C'est plus un as de trèfle si les Américains se retireraient de l'OTAN. La question se poserait du commandement de cette organisation. Mais surtout, la question fondamentale qui était posée par le discours de M. Maluret, c'est est-ce que ça reste un as de cœur? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Et c'est là où je dis que dans cette réflexion, les clivages idéologiques et les clivages géopolitiques en Europe aussi peuvent se croiser. Regardez la Hongrie, regardez la Slovaquie. Madame Meloni va devoir aussi clarifier sa position. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se presser. Tout l'actif, le capital qui est en l'OTAN est de toutes les façons extrêmement précieux. Si on peut continuer, je dirais, dans une alliance qui est rééquilibrée au profit des Européens, avec un pilier européen, à restabiliser les choses dans un dialogue acceptable et constructif avec les Américains, c'est une chose. Si nous ne le pouvons pas, on ne peut pas passer par perdre des profits l'OTAN. Il faut récupérer cet actif en le transformant. Et donc toute la question qui vont se poser avant cette réunion de l'OTAN en juin prochain, c'est quel est le commandement de cette organisation si les Américains, par exemple, ne veulent pas être impliqués sur un certain nombre de théâtres d'engagement comme le théâtre européen, méditerranéen. Qu'est-ce qui se passe en matière de cohérence opérationnelle si les Américains retirent des moyens? Et enfin, vous l'avez évoqué dans une précédente discussion, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne l'éclairage stratégique des opérations, le renseignement, le spatial, les réseaux de communication, vous les avez évoqués tout à l'heure. Et là, c'est des domaines dans lesquels les Européens doivent construire dans la durée, ils doivent s'y mettre plus rapidement, mais les choses ne se feront pas en un jour. Et donc les garanties à l'Ukraine, elles font effet de levier. C'est une démonstration court-termiste qu'on est capable de déployer des forces à un niveau qu'on n'a jamais déployé entre Européens depuis la fin de la guerre froide, 30 000 hommes. C'est la question du commandement qui doit être réglée, puisque l'OTAN ne peut pas être impliquée en tant que telle. A-t-on accès des capacités de commandement de l'OTAN ou doit-on mettre en place un commandement européen spécifique? Et puis, c'est évidemment le soutien logistique dans la durée de cette force. Donc vous voyez, il y a un effet de démonstration qui va être prouvé. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et avec qui on le fait? Et là, il est probable que au sein des États membres de l'Union européenne, il va y avoir des géométries variables, sans doute une avant-garde qui sera prête à assumer cette responsabilité. La seule chose, c'est qu'on voit que la plupart des grands pays, ceux qui ont des grandes armées, sont prêts à contribuer. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson, vous interroge.
Oui, Louis Gauthier, on connaît les dépendances stratégiques européennes, dépendance aux hydrocarbures russes, dépendance industrielle liée à la Chine, dépendance sécuritaire aux États-Unis. Est-ce que l'Europe peut parvenir à développer une forme d'autonomie stratégique sans sortir de cette triple dépendance?
C'est une très bonne question dans l'ensemble, parce qu'effectivement, s'affirmer comme un acteur stratégique, c'est s'affirmer dans une gamme et dans plusieurs dimensions. Il y a la dimension militaire, il y a des dimensions de sécurité, par exemple dans le cyber. J'ai vu que l'ANSSI avait sorti son dernier rapport mettant justement en évidence les menaces contre nos infrastructures critiques possibles du côté russe. Des actions d'espionnage chinois, donc ça, c'est dans tous les domaines. Et évidemment, dans le domaine économique, moi, je pense que on a vu les premières réactions à la logique de renforcement des tarifs douaniers américains que vient d'annoncer Madame von der Leyen en réplique. Mais c'est une discussion qui va être globale. Aujourd'hui, Trump, je dirais, est polarisé par les questions douanières, mais il y a les questions financières. Si les Européens intègrent leur marché financier, une partie des sommes qui sont investies aux États-Unis seront davantage investies en Europe. Il y a la question, et les Chinois peuvent avoir un intérêt stratégique convergent avec les Européens, à ce que le dollar ne soit pas la monnaie dominante des transactions internationales et des transactions financières. Et d'ailleurs, on a vu que dans les 20 dernières années, le poids du dollar s'est relativisé. Donc, si on est dans une posture de compétition agressive avec les États-Unis et qu'on ne rentre pas dans des logiques qui sont davantage coopératives, où on peut comprendre que les États-Unis peuvent être attentifs au fait que leur balance commerciale est très déséquilibrée. Mais leur balance commerciale est très déséquilibrée, mais il faut, comme je le dis à l'instant, regarder la balance des capitaux. Dans le domaine intellectuel, un certain nombre de mesures qui sont prises par l'administration Trump vont sans doute inverser la fuite des cerveaux vers les États-Unis et plutôt rendre l'Europe, vu son modèle, attractif, de transparence au regard de la science, beaucoup plus attractif. Donc nous avons des atouts, mais il faut jouer évidemment sur une gamme d'actions possibles diversifiées.
Sur cette question des atouts stratégiques, Louis Gauthier, il y a évidemment la question fondamentale, prégnante hein, du nucléaire. Et à cet égard, je voudrais vous faire entendre la chercheuse à l'IFRI, Héloïse Fayet. Elle était invitée dans cette même émission lundi et elle parlait de la dissuasion américaine qui, selon elle, doit demeurer en Europe.
Il faut que la dissuasion nucléaire américaine reste en Europe et la dissuasion nucléaire française et britannique sont censées ajouter une couche de complexité dans le calcul stratégique de l'adversaire. Donc si la Russie se dit « Ok, je vais attaquer par exemple la Pologne avec une attaque conventionnelle de nature à affecter les intérêts vitaux de la Pologne », Vladimir Poutine peut se dire « Ah bon, peut-être que les États-Unis ne vont pas agir pour répondre à cette attaque, mais... » Vladimir Poutine doit garder en tête qu'il y a aussi la dissuasion nucléaire française, la dissuasion nucléaire britannique et tout le discours dissuasif qui va avec, et donc des manifestations, des démonstrations de force et évidemment le rôle très important des forces conventionnelles qui sont là pour épauler la manœuvre des armes nucléaires.
Sur cette question du nucléaire, Julien Bisson encore.
Oui, Louis Gauthier, est-ce que l'Europe peut continuer à s'abriter derrière le parapluie nucléaire américain ou est-ce que la France et la Grande-Bretagne ont les moyens de prendre le relais?
Alors, je pense que j'ai entendu la position d'Héloïse Fayet. Je pense que c'est une pétition de principe. On ne peut pas disposer de ce que feront les Américains, qui par ailleurs, depuis la fin de la guerre froide, étaient comme d'ailleurs tous les grands pays, dans une logique de renationalisation de leur dissuasion nucléaire. Les Russes, en retirant les armes des anciens pays du bloc communiste soviétique, et les Américains d'eux-mêmes, en proposant d'ailleurs aux Européens plutôt d'investir dans le bouclier antimissile. Donc pas de pétition de principe, on verra, je souhaite effectivement que les Américains contribuent à apporter une protection nucléaire. Après, la question de l'extension de la couverture des dissuasions britanniques et françaises, il faut clarifier les choses. C'est pas un partage, que ce soit la fabrication, la détention, l'ordre de tir, restera une décision souveraine du président de la République en ce qui concerne la France. En revanche, on peut aller dans des logiques qui étendent la couverture de notre dissuasion et... Il y a deux possibilités, je dirais, sur la dissuasion. Soit on est dans un scénario extrême limite de survie, on n'imagine pas de situation, c'est ce que disaient les accords de Tchéquer, dans lequel les intérêts vitaux d'un pays très proche seraient en cause et celui de la France ne le serait pas. Donc si également les intérêts vitaux de la France sont concernés, on ne voit pas comment notre dissuasion nucléaire ne serait pas d'une certaine manière impliquée. Mais là, ce qui est en cause, c'est plus des logiques qu'on appelle de déni d'accès, de stratégie de déni d'accès. C'est en faisant cette extension, dire qu'à un moment du conflit, par une gesticulation, par un signe, comme l'a d'ailleurs fait M. Poutine en Ukraine, on montre qu'il y a des étapes à ne pas franchir dans la belligérance. Et d'une certaine manière, ça a fonctionné. Les alliés de l'Ukraine ne sont pas rentrés dans la belligérance vis-à-vis de la Russie. Et deuxièmement, aucune frappe sévère, il y a eu des frappes sur le territoire russe, mais aucune frappe sévère n'a été tirée ou n'a ciblé le territoire de la Russie. Donc vous voyez que le jeu nucléaire est un jeu aussi complexe dans les phases préalables. C'est une dimension par ailleurs, à part, mais c'est pas une dimension séparée du reste. Et on ne peut pas imaginer une extension de la dissuasion nucléaire française s'il n'y a pas une protection multicouche qui est bâtie, qui est à bâtir entre Européens, qui comporte des défenses antimissiles, des missiles de frappe dans la profondeur qui manquent, et puis la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est la toiture, mais pour l'instant, il y a les fondations solidifiées de la défense européenne, et puis il y a des murs à bâtir dans le domaine conventionnel si on veut occuper ce créneau stratégique. On passe pas du jour au lendemain d'un tir d'artillerie à la bombe atomique, ça n'a pas de sens. Il faut un dimensionnement stratégique conventionnel, antimissile, dissuasion.
Il y a dans l'hebdomadaire le 1 de cette semaine, Louis Gauthier, un entretien fleuve avec Raphaël Glucksmann qui dit notamment que sur le retard stratégique de l'Europe face à la menace russe, il existe un aveuglement des élites européennes qu'il compare à celle de 1940, des élites qui préfèrent leur confort à l'urgence du danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il nous reste 30 secondes, donc peut-être d'une manière ultra synthétique, votre point de vue sur ce sujet.
Je pense que j'opposerai pas les élites, le peuple, je n'en sais rien. Je pense que globalement, les Européens ont sur ce qui se passe aujourd'hui les yeux qui sont dessillés, les écailles leur sont tombées des yeux. On était nombreux à indiquer que l'agressivité de la Russie était un problème pour les Européens, créer de la division, de la dissension. Donc je pense que voilà, les gens ont pris conscience. Maintenant, il faut pas non plus être dans un alarmisme. La Russie, et surtout après cette guerre, qui était finalement pour eux une piteuse entreprise qu'ils vont essayer de transformer en victoire grâce aux conditions dans lesquelles le cessez-le-feu est négocié par M. Trump, la Russie n'est pas un adversaire ou si terrible. Rien qu'aujourd'hui, l'ensemble des budgets militaires, c'est trois fois le budget de la Russie. Donc ce qui manque, c'est de la rationalisation, mais c'est surtout de la volonté. Il faut, pour tout État et pour les Européens, à la fois connaître son ennemi et ne se reconnaître aucun protecteur.
Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Louis Gauthier, je rappelle que vous êtes directeur de la chaire Grands Enjeux Stratégiques Contemporains de l'Université Paris 1. Un grand merci à Julien Bisson, comme chaque mercredi, de m'avoir accompagné dans cet entretien. Et merci à vous deux d'être restés dans Questions du Soir.